Et comme chaque semaine, on est vraiment très content de se retrouver pour notre chronique du KKL. Et nous sommes en compagnie de Maxi Cliqui. Bonjour Max.
Mais bonjour Asley, bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver aujourd'hui.
On est très content de te retrouver ici avec nous en studio. Max, on espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, eh bien, la semaine dernière, Max, on parlait des forêts. Bien, on va parler de quelque chose d'autre qui compte beaucoup pour le KKL, c'est l'eau. Et on peut mettre ça un petit peu en exergue avec la météo, étant donné que ces derniers temps, on a connu des grosses pluies en Belgique. Mais finalement, c'est le climat hivernal normal en Belgique, donc rien de vraiment choquant, Max.
Oui, en effet. Donc, nous sommes habitués à ce climat, ce qui n'est pas le cas en Californie, par exemple, où les pluies abondantes, anormal pour la saison, cause des inondations inédites. Et il faut quand même le dire, c'est là que le fameux changement climatique est important, parce que c'est finalement nous, l'homme, qui est directement ou indirectement responsable.
Et en Israël, au niveau de la météo, finalement, est-ce qu'on ressent l'impact du changement climatique ?
On le ressent, mais je préférais quand même être là-bas maintenant, parce que si on veut, ben, il fait à peu près 20 degrés à Tel Aviv aujourd'hui, un peu moins à Jérusalem, parce que nous sommes dans les hauteurs. Ce qui veut dire que la saison d'hiver, il pleut quand même en Israël. Hein, et maintenant, on peut y faire du ski sur le mont Hermon, donc ça veut dire qu'il y a des précipitations, mais pas de quoi paniquer, certainement. Parce que chaque goutte d'eau qui tombe, chaque flocon de neige, c'est un vrai trésor pour le pays. Et la grande différence avec la plupart des pays du monde, c'est qu'en Israël, non seulement on récupère toutes ces eaux pluviales dans les réservoirs, entre autres, mais aussi on récupère ces eaux et on les dépollue et on les rend propres à la consommation, du moins pour l'agriculture, qui est très grande consommatrice d'eau.
Et donc ce n'est pas une fausse info le fait qu'on préserve le trésor bleu hein, en Israël. Israël, c'est un pays qui est privilégié dans cette politique de l'eau, car il y a un facteur important, l'action du KKL.
Mais oui, je vous pose la question, chers amis, qui est le maître d'œuvre de cette fameuse récupération ? C'est bien sûr le Keren Kayemet l'Israël, avec ses 140 réservoirs et d'autres en construction, qui sont surtout répartis dans des zones désertiques. Je vous rappelle, un point de vue géographique, Israël, c'est quand même la moitié du pays, c'est un désert, si c'est pas le Negev, c'est la Judée et d'autres régions où il pleut pas beaucoup, parce que je dirais dans ces zones où les premiers kibboutzim et le reste de ceux qui continuent à fonctionner, les derniers kibboutzim agricoles, eh bien ont besoin d'eau, parce que ces kibboutzim bon donc font la grande part à préserver cette eau, parce que pour cette eau, il faut que tout pousse, sinon il n'y a bien sûr aucune récolte possible. Donc voilà, le KKL est présent grâce à ses réservoirs. Le KKL est aussi installé dans certaines villes, ce qu'on appelle des biofiltres. Donc en fait, au pied des immeubles, il y a des surfaces où il y a une surface d'eau qui engrange les eaux qui tombent, mais l'eau est en général elle n'est pas bonne à consommer, et notamment l'eau domestique, que ce soit de la vaisselle et de la salle de bain, donc cette eau n'est pas bonne, ce qui veut dire que naturellement, dans ces biofiltres, qui dit bio-vie, ça veut dire qu'en fait, les plantes, dépolluent cette eau, et elle est directement, en étant retraitée, utilisée dans ces immeubles. Donc voilà, c'est une forme aussi d'économie d'eau, et je dirais, Israël est aussi un précurseur dans ce sens-là.
Important, il faut le savoir, oui. Israël, c'est le pays qui recycle le plus d'eau usée au monde.
Ah oui, et ça, cher Asley, chers auditeurs, ce n'est pas une intox. C'est vraiment une info tout à fait réelle et qui fait un peu l'admiration d'autres pays. 80%, sachez que 80% des eaux domestiques sont recyclées au lieu de se perdre dans le sol ou dans ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Ce sont les endroits où les eaux s'infiltrent, mais il faut des années pour que l'eau soit consommable.
Merci beaucoup Max pour toutes ces informations. Comme chaque fois, on est très content de discuter avec toi. On te souhaite une très très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Pour d'autres sujets. Mais au revoir et merci de nous avoir écoutés.
Et c'est à présent le moment de retrouver notre correspondant en Israël, Yitzhak Mopsik. Bonjour Yitzhak.
Bonjour Asselet, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. On va un peu parler aujourd'hui, on va commencer à parler de Tu Bishvat, commencer parce que c'est une fête très importante bien sûr pour tous ceux qui nous écoutent pour le KKL. Hein, on va dire c'est la fête du KKL, en Israël c'est considéré jour KKL et c'est un jour bien sûr, on va l'aborder un peu plus tard ou plus de façon peut-être un peu paradoxale, c'est le jour où dans beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles, beaucoup de structures, on plante des arbres, simplement. Et pour nous, c'est très, très important, cette journée. Donc, Tu Bishvat, hein, le 15 du mois de Shvat, hein, on se trouve dans le mois, déjà dans ce mois, ça va être donc le lundi 6 février. Lundi 6 février, donc à peu près dans 15 jours, et c'est là qu'on commence cette fête. Elle est très particulière, cette fête, parce qu'elle a un côté, on va dire, judaïque propre, d'une certaine façon, et d'une autre façon, un côté, je dirais, Israël sioniste. Puisque contrairement à d'autres fêtes, hein, je dis ça d'une façon un peu générale, contrairement à d'autres fêtes, il y a peu d'obligations, très peu d'obligations au niveau de ce qu'on doit faire. Vous voyez, toutes les autres fêtes, il y a beaucoup de prières, Kippour, il faut pas qu'on mange, Rosh Hashanah, comme j'ai dit, il y a beaucoup de prières, etc., etc. Cette fête-là, il y a très peu de prières spécifiques ou pas du tout, en fin de compte. On est exempté de certaines choses, je reviendrai un peu plus tard. Et en fait, donc cette renaissance de la nature d'une certaine façon. D'ailleurs, cette fête, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle a été moins fêtée pendant les 2000 ans d'exil, je veux dire, que maintenant en Israël. Parce que, effectivement, c'est une fête qui a cet aspect national qui est lié à la terre d'Israël et à la nature de la terre d'Israël. Donc, quand on se retrouve quelque part dans le monde, c'est moins, je veux dire, c'est moins clair de fêter ce Tu Bishvat. Mais quand même, il a été fêté, bien sûr, comme toutes les fêtes du calendrier juif, d'une façon ou d'une autre, pendant toute cette période. D'ailleurs, on discute, et ça va être un des premiers points qu'on va aborder ici, une longue discussion dans le Talmud, d'abord pour savoir pas quand on va faire Tu Bishvat, hein, parce que c'est Tu Bishvat, donc le 15 du mois de Shvat, mais est-ce que c'est là qu'on va faire aussi, d'une certaine façon, déclarer le premier jour de l'année, comme tous nos auditrices et auditeurs le savent, certainement, le premier jour de l'année pour les Juifs, d'une certaine façon, c'est le premier Tishri. Donc au mois de septembre, octobre à peu près chaque année, c'est le début de l'année, c'est le nouvel an, mais d'autres dates avaient été évoquées et discutées dans le Talmud, hein. Le Talmud c'est la loi orale, hein. il y a 2000 ans, et on avait parlé donc de Tu Bishvat, qui est d'une certaine façon l'année de la nature, on avait parlé donc de Tishri, le mois de septembre, octobre, hein, mais aussi qui était le début de l'année également au niveau d'après la tradition de la création du monde, mais on avait aussi parlé du Tu Bishvat en disant que la nature, en fin de compte, c'est l'élément principal de la vie, parce que quand la nature, et on le voit malheureusement aujourd'hui, quand la nature n'est pas très favorable à l'homme, avec toutes les tempêtes qui existent, le changement climatique, on en a parlé souvent, et ben la nature, elle peut malheureusement détruire l'homme et des fois le genre humain. Donc il a été fixé que Tu Bishvat est la fête de la nature, mais pour les autres périodes, donc le premier Tishri, le premier Nissan, ce qui est un peu avant Pessah, ça a été utilisé que ce soit Tu Bishvat. D'autre part, Tu Bishvat, on peut dire, n'est pas seulement un jour de joie ou une date, comme par exemple, je l'ai dit, Rosh Hashanah, hein, le nouvel an. Et d'ailleurs, on n'avait trouvé aucune mention de Tu Bishvat. C'est une fête où il y a très, très peu de sources pour savoir qu'est-ce qu'on fait ou comment on fait. Et d'après certaines explications, ces sources, malheureusement, existaient, mais ils ont été perdues avec le temps. Mais par contre, ce qu'on sait au niveau des prescriptions, je dirais, de la tradition juive, c'est que ces jours, on a deux interdictions. C'est un, on peut pas jeûner. Donc, toujours qu'il y a un peu jour de joie, jour de fête, on n'a pas le droit de jeûner. Et on dit pas, les tachanouns. Les tachanouns, c'est des supplications qui sont faites chaque jour, qui ne sont pas des jours de fête. Donc, voilà déjà une indication que c'est un jour de fête, et un jour de fête important. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine à avancer dans le temps. À la semaine prochaine et donc un grand au revoir à nos auditrices et à nos auditeurs.